Minimalisme. Minimalisme. Abstraction sonore. De la technologie.
Dark metal théâtral.
Classe.
Tableau campus.
Deux ambiances musicales. Des méga jours du cadeau.
Néo black metal rapide.
Classe.
Des nouveautés, des infos, des cadeaux.
88.3.
Radio Campus 88.3. 17h, 18h, le mag culturel. Le mag culturel,
Radio Campus 88.3 FM.
88.3 FM.
Et bonsoir, bonjour, bonsoir. Hello Marion, comment tu vas ?
Bah moi ça va bien, bonjour à tous.
Et bah bienvenue dans le mag culturel cette semaine. Ce soir il est 17h, vous êtes bien sur Radio Campus, vous êtes bien dans le mag culturel. Du coup je suis avec Marion, c'est Lucas, salut à tous. On va parler de Nabucco, on reçoit Olivier Richard et Ludovic Meunier, le scénographe et le décorateur, on peut dire ça comme ça, de la pièce Nabucco qui se jouera la semaine prochaine, donc le 22, 23 et 24 mars au Zénith d'Orléans. Donc on va en parler dans un instant. On aura aussi dans la suite de l'émission l'interview d'Asma de Lina Swalem. Donc ce sera une émission bien chargée et puis toujours de la musique de Radio Campus. On reçoit du coup Olivier Richard qu'on avait déjà reçu il y a quelques semaines aussi pour le mag culturel. Comment tu vas Olivier ?
Mais je vais très bien, je suis content de nouveau d'être à l'antenne de Radio Campus avec vous, c'est toujours un plaisir. Je suis très content parce que notre projet Nabucco est en phase d'atterrissage.
Et oui, parce que dans une semaine, déjà comment tu te sens ? Comment vous vous sentez à une semaine du spectacle ?
Impatient.
Impatient, Olivier, comment
c'est
tu
ça, ouais, c'est ça, on a hâte. Globalement, plein de choses sont prêtes, il y a encore des adaptations quand on va arriver au Zénith, Ludovic nous en parlera, mais voilà, on se sent prêt, mais forcément le stress va commencer à monter, l'anxiété va monter, on sait qu'on va avoir beaucoup de monde, il reste encore des places, le préciser, hein, on a pas mal de spectateurs, mais il reste encore des places possibles pour les trois représentations, mais on a hâte, oui.
Alors on va revenir nous sur un événement qui s'était passé le 1er février sur le campus, notamment au Bouillon, où y avait notamment eu des conférences, un escape game. Quel retour tu peux faire sur cet événement qui a été fait au Bouillon, notamment du coup en lien direct avec les étudiants ?
Eh ben c'était vraiment sympa. On a eu pas mal d'étudiants qui sont venus nous voir pour jouer d'une part au jeu qui était proposé au Bouillon toute la journée, et puis effectivement les deux conférences qui ont eu lieu, une conférence axée sur la santé des artistes et des musiciens en particulier, qui était vraiment excessivement intéressante, une vraie conférence je dirais universitaire en lien avec le milieu artistique, et ça c'était très très chouette d'un conférencière australienne qui est venue spécialement pour nous à cette occasion, et puis la conférence toujours aussi exceptionnelle de Clément Joubert, le chef d'orchestre, qui présente de façon assez incroyable les différentes œuvres qu'il nous propose chaque année, et là c'est pareil, on a eu du monde et c'était chouette.
Et moi juste avant je vais revenir sur un autre événement qui s'était fait cette fois-ci place du Martrois à Orléans, le flash mob, comment c'était ? Parce que nous, on ne s'est pas revus depuis, mais comment c'était ?
Alors, on a eu très très peur de la météo. Ça a été l'angoisse les trois derniers jours. On guettait cette météo. Et on a eu la chance, on avait prévu de chanter trois fois. On a pu chanter deux fois. Et la troisième, eh bien, la pluie est arrivée, donc on s'est arrêté. Ce qui fait que l'objectif, il était très très ambitieux. Hein. L'objectif, c'était 3000 chanteurs sur la place du Martrois. On ne l'a pas atteint.
Voilà, pour rappeler, c'était un objectif de faire le plus gros flash mob possible avec le célébrissime Va Pensiero.
Voilà, ce beau morceau de Nabucco qui est quasiment l'hymne non officiel de l'Italie et qui résonne pour beaucoup de monde, hein, cette patrie perdue, cette nostalgie de son pays quand on est en difficulté. Donc ce Va Pensiero qui est magnifique, cœur des esclaves comme on l'appelle aussi, qui va résonner de façon magique je pense au Zénith la semaine prochaine, ça va être extraordinaire. Donc on a eu près de 1800 à 2000 personnes qui étaient présentes place du Martroi, c'était quand même...
C'est déjà beaucoup.
Ouais, c'était quand même... Et franchement, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a été faite. On avait notamment un drone qui a pu filmer depuis le... un petit peu en altitude, et les images sont assez belles de ce moment-là. En tout cas, on a passé, nous, un moment merveilleux.
Alors, on parle du chœur, et tu es aussi ici pour parler du chœur, parce que tu en fais partie, tout simplement. Comment tu sens la préparation du chœur, de l'équipe qui va chanter
Alors, le chœur, oui, j'ai ce grand bonheur de faire partie du chœur de la Fabrique Opéra depuis maintenant quelques années. Cette année, c'était une année particulière parce que Nabucco, c'est un des opéras où le chœur est extrêmement présent. Donc nous, on était super contents l'année dernière quand on a su que c'était Nabucco. On s'est dit « Ah, super, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses ». Après, quand on a vu arriver la partition, qu'on a commencé à travailler au mois de septembre avec notre chef de chœur, Corinne Barrère, on s'est dit « Ah ouais, oui, effectivement, on chante beaucoup, mais du coup, il y a beaucoup à apprendre ». Et évidemment, c'est du par cœur. On ne va pas être avec nos partitions sur scène. Ce serait pas possible. Donc voilà, on a vécu un automne un petit peu difficile, on va dire. On a tous beaucoup travaillé. Le par cœur est arrivé progressivement pour les uns les autres. Puis après, quand la mise en scène arrive, on est très, très perturbé parce qu'on perd ses repères musicaux. Et donc, à partir du mois de décembre, janvier, l'ajout de la mise en scène a été toujours impressionnante, mais là, ça commence à bien aller. On a répété beaucoup au lycée Voltaire. Là, depuis quelques semaines, nous sommes à l'Alliage à Olivet, qu'on remercie. Et puis, dimanche, on va intégrer le Zénith. Et de nouveau, ça va être les premiers moments un petit peu angoissants parce que ce ne sera pas exactement ce qu'on a vécu. Donc, il va falloir se recaler. Et on a en gros trois jours pour se recaler jusque pré-général et général.
Alors justement, tu as dit que vous aviez su il y a un an le choix de Nabucco. Est-ce que tu sais comment s'est choisi cette pièce, cet opéra ?
Alors ça, c'est le grand mystère dans la tête de Clément Joubert. non, je ne sais pas comment il réfléchit là-dessus. Il fait une part entre ses goûts, son goût évidemment, entre le fait d'avoir des opéras populaires, donc qui vont faire venir du public, et là Nabucco fait venir du public. Et puis aussi, et peut-être ça permettra de faire la transition avec Ludovic, avec toute l'équipe technique de scénographie, de mise en scène. Voilà, je pense qu'à un moment, il y a une discussion, on va leur demander, hein, une discussion sur ce choix-là. Mais je pense qu'au départ, c'est vraiment Clément Joubert qui fait ce choix.
Parce que, je le rappelle rapidement, le double objectif premier de la Fabrique Opéra, c'est de créer déjà un opéra par an et de créer un opéra coopératif, collaboratif même, avec, tu l'as dit, différents lycées, différentes... personnalité. Donc c'est vraiment le gros objectif je pense qu'on en reparlera, mais comment se lie un peu cette collaboration avec tous les lycées ? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel lycée peut participer ?
Alors, Ludovic va pouvoir nous dire plein d'informations. Je voudrais juste dire qu'effectivement l'objectif, c'est de faire découvrir l'opéra au plus grand nombre de personnes. Et donc pour ça, coopératif dans le sens où tout ce qui est musical, c'est professionnel, c'est-à-dire les musiciens sont pros, les solistes sont professionnels, le chœur est un chœur amateur. Je suis pas prof à l'université, je suis pas chanteur d'opéra. Et puis tout le travail autour de la mise en scène est professionnel, mais le travail sur les décors, les maquillages, les costumes sont réalisés par des élèves des écoles d'apprentissage. Et puis je vais y ajouter un petit peu la touche universitaire parce que on essaie progressivement de faire venir l'université au sein de ce projet. Il y avait déjà eu des travaux qui ont été faits par des étudiants de l'IUT d'informatique depuis plusieurs années. Et puis là, cette année, on a créé une unité d'enseignement d'ouverture pour les L2 autour de la découverte de l'opéra. Et dans le projet des étudiants qui est en cours, il va justement y avoir des productions de posters présentant ce qu'est l'opéra. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que Ludovic aujourd'hui a pu intervenir pour expliquer son métier de scénographe. Donc je voulais dire par là que l'université commence à prendre sa place au sein du projet et ça me paraît intéressant.
Et bah justement, on peut commencer les questions. Je te laisse la parole, Marion.
Oui, du coup, Ludovic Meunier, vous êtes scénographe décorateur. Quel est votre rôle dans la production de ce spectacle ?
Eh bien, mon rôle, c'est donc, comme le nom de mon métier l'indique, de créer la scénographie. Sauf que pour le faire, je ne suis pas tout seul. en dehors du projet Fabrique Opéra, j'ai l'habitude de travailler directement avec des metteurs en scène ou metteuses en scène sur des projets de théâtre ou d'autres projets d'opéra. Là, avec la Fabrique Opéra, moi, ce qui m'a été demandé, c'est donc d'encadrer, de manière professionnelle, d'encadrer des jeunes à l'élaboration d'une scénographie sur une œuvre choisie donc chaque année. Et les premiers élèves que moi je rencontre, c'est le lycée Charles Péguy à Orléans, qui, par leur section d'EnMed Design Espace, intègre par l'intermédiaire d'un module en fait sur l'année, intègre la scénographie de spectacle. Et du coup, nous, ça a été une grande porte ouverte pour la Fabrique Opéra d'aller vers eux. Et on travaille. En fait, on commence en février-mars. Là, je viens de commencer le travail de scénographie pour le prochain opéra qu'on va jouer en mars 2025. Voilà. On a à peine fini et présenté Nabucco, qu'on commence déjà à bosser sur le suivant. Et donc là, le travail qu'on présente dans une semaine pour Nabucco a été réalisé par les élèves de première année de l'an dernier, donc, au lycée Charles Péguy.
D'accord. Et vous venez d'annoncer que vous n'étiez pas seul sur le travail de scénographie. Comment associez-vous votre travail et votre avis à celui de vos collègues ?
Alors, en fait, c'est tout un travail d'équipe. Il y a une équipe qu'on appelle l'équipe artistique dans le projet d'opéra. On a donc évidemment Clément Joubert qui est déjà à l'initiative du projet au départ. On a Corinne Barrère, chef de chœur. Et chaque année, il y a un metteur ou une metteuse en scène qui est choisi. Là, cette année, Cécile Urbeau. Le premier travail se passe avec elle. En fait, c'est une espèce de binôme qui se crée au début, parce qu'il y a un livret qui existe sur l'œuvre. Moi, j'échange avec Cécile Urbeau sur les intentions de mise en scène, les choix qu'on pourrait faire. Et après, très vite, on commence à travailler avec les étudiants. Et dans l'équipe artistique, on ajoute à ça Paula D'Artigue, pardon, qui est donc costumière et qui, dans le même cadre que moi, intervient dans d'autres lycées pour réaliser les costumes des solistes et des choristes. Et on a un régisseur technique, Bastien Quatrom, vers qui on va se tourner pour tout ce qui est soucis techniques, toutes les questions qui vont se tourner autour du zénith, de l'implantation du décor, de la lumière, parce qu'il est aussi donc notre créateur lumière sur l'opéra. Donc on est un peu le noyau, on va dire, de départ de l'opéra, avec aussi l'assistant metteur en scène Quentin Delépine, qui fait un travail aussi incroyable avec Cécile. Et on avance comme ça petit à petit, sur une année, chacun dans nos lycées, parce que moi je commence la scénographie avec le lycée Charles Péguy, et ensuite je vais voir d'autres lycées partenaires pour la construction des décors, que ce soit en bois, en métal, en peinture. Voilà, on a le lycée Gaudier-Bresca, on a le lycée Jean Lursa, on a le CFA du bâtiment. De temps en temps, on a le lycée La Mouillère qui nous faisait des compositions florales. Là, cette année, on n'avait pas besoin d'eux, donc l'intégration ne s'est pas faite. Donc, suivant les années, suivant les opéras, on change parfois d'établissement. Ouais.
C'est un gros travail d'équipe.
Tout à fait, oui.
Du coup, pour rappel, Nabucco, c'est un spectacle opéra où l'action se déroule au 6e siècle avant Jésus-Christ, lors de la conquête du royaume de Juda par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. L'œuvre narre les luttes pour le pouvoir impliquant ses deux filles, Phénéna et Abigail, toutes deux amoureuses d'Ismaël, neveu du roi de Jérusalem. Nabucco, c'est un spectacle relatant des étapes du récit de la Bible. Quel a été le processus d'information et de création artistique par rapport à ce sujet ?
Alors, le choix de mise en scène s'est posé. La question s'est posée très rapidement avec Cécile de savoir quelle direction on allait prendre. Parce que, comme vous venez de le dire, c'est un récit qui parle d'une grande page de l'histoire qui résonne malheureusement avec l'actualité de nos jours, qui montre aussi que l'histoire malheureusement se répète dangereusement. Le choix a été aussi fait surtout de s'écarter de tout ça. L'idée n'était pas de faire un choix politique ou de politiser l'histoire, mais plutôt de raconter, de faire un récit, comme peuvent l'être les grandes mythologies ou les grandes histoires de civilisation d'une manière globale. Et Cécile Urbeau, notre metteuse en scène, en fait, elle a une direction artistique qui va vers le théâtre d'ombre. Elle-même s'est formée en fait au théâtre d'ombre indonésien il y a quelques années. Elle est passionnée de ce travail de l'ombre et de la lumière, de marionnettes et tout ça. Et très vite, elle a choisi elle a accepté en fait de faire Nabucco. Parce que c'était cette histoire-là. D'ailleurs, elle nous l'a dit plusieurs fois. Peut-être si ça n'avait pas été Nabucco, elle aurait dit non. Et là, le fait que c'était Nabucco, ça lui faisait penser un petit peu à une histoire qu'est le Ramayana, qu'elle a beaucoup travaillé en théâtre d'ombre. Voilà, il y avait les mêmes esprits de personnages et tout ça, et elle a voulu intégrer ça de manière visuelle à notre opéra. Et donc la version qu'on va proposer va être très fortement basée sur le travail d'ombre et de lumière. Donc en scénographie, ça a été aussi un travail de grands questionnements sur sur quoi on va projeter, quelles formes vont avoir les écrans, qu'est-ce qu'on va avoir comme accessoires, la forme du plateau et tout ça.
D'accord. L'action se passant à Babylone, ce qui est une cité antique pleine de magie, on va dire. Enfin, les livres d'histoire nous retranscrivent comme une grande cité où se mêlant plein de langages divers et tout. Comment vous avez réussi, par les décors, à retranscrire la magie des lieux ?
Alors justement, on a pas essayé de retranscrire la magie des lieux. En tout cas, pas de cette manière-là. C'est-à-dire que la question que j'ai posée assez vite, avec l'équipe de scénographes, donc des élèves avec qui on a travaillé, on a posé assez vite la question à Cécile de savoir si l'action, on l'a transposée dans une autre époque. Qu'est-ce qu'on voulait raconter ? Est-ce qu'on raconte vraiment l'histoire de Babylone ? Et très vite, elle nous a dit, mais si on peut s'éloigner de tout ça, pourquoi pas ? C'est-à-dire de rendre un petit peu universelle cette histoire, que ce soit n'importe quel peuple. En fait, l'histoire raconte l'histoire de deux peuples qui vont un qui va vouloir conquérir un autre. Il y a une histoire d'amour qui se glisse au milieu de tout ça, parce que dans l'opéra, c'est ce que je racontais tout à l'heure aux étudiants, dans tous les opéras, on a une histoire d'amour qui est impossible, et puis on a toujours un mort ou une morte à la fin. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes schémas. Et là, c'est intégré à cette histoire donc de peuples qui vont s'affronter. Donc, visuellement, on a essayé de traduire cette magie assez simplement pour que déjà, le zénith est très grand et on voulait que les gens, même de très loin, comprennent très simplement. Il y a 110 choristes sur scène. Comment savoir qui fait partie de Babylone, qui fait partie des Hébreux et tout ça? On s'est dit, bon, on va oublier tout ce qui est sacré ou religion pour aller vers quelque chose de très visuel. Et on s'en sort plutôt pas mal. Déjà, Paula, avec les costumes, elle a travaillé vraiment sur des formes très opposées et des contrastes de couleurs. Donc, on est beaucoup sur le noir et blanc, enfin, beige, pas blanc. Et en scénographie, en fait, c'est ça. On a des formes qui vont s'opposer. On a beaucoup travaillé sur la forme triangle et la forme arrondie. Ce qui fait que ça rend l'histoire très accessible, même pour les enfants. On va accueillir près de 6000 enfants d'école primaire et collège au pré-général et au général. Et même pour les présentations qu'on a fait dans les écoles, moi, j'ai toujours été surpris qu'ils adhèrent tout de suite, ils comprennent quand on leur a dit, ben voilà, il y a un peuple qui appartient au monde des triangles et l'autre peuple qui appartient au monde des formes rondes. Ils comprennent très vite ce que ça va donner par les images qu'on a créées. Et voilà, je pense que ça va fonctionner assez simplement. Par une magie visuelle, en fait. Voilà.
Je reviens rapidement. Est-ce que dans l'idée de création, cette idée de facilité de compréhension pour le public, elle est déjà prédominante ? Ou alors on se dit, bon, bah, s'ils ne comprennent pas, tant pis, s'ils comprennent, tant mieux ? Ou alors il y a cette idée d'apprentissage par la pièce ?
Non, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que déjà, à la Fabrique Opéra, le but premier, c'est de rendre accessible l'opéra. Donc, partant de ce pilier fondamental, on se dit, bon, bah, voilà, une histoire qui peut être complexe. Parce que Nabucco, c'est quand même complexe. Quand on lit le livret, on voit plein de personnages, on peine à comprendre tout de suite les relations entre les personnages. Et donc l'idée, c'était de simplifier, vraiment simplifier. Il y a aussi un autre pilier à la Fabrique Opéra, c'est de rendre accessible par la narration, c'est-à-dire qu'un opéra qui est en langue étrangère, comme cette année en italien, c'est de trouver un moyen dans la narration pour intégrer soit du parler français, parce que bon, il chante en italien, mais on peut se permettre de parler voilà, en français. Ou là, dans le cas de Nabucco, Cécile, en mise en scène, elle a travaillé sur des mots qui seront projetés ou des phrases qui donnent un petit peu des clés sur les personnages, sur les émotions. Il y a une scène très jolie avec Abigail où elle est en train de parler de ses souvenirs. Elle le dit en italien, donc si on ne le sait pas, on ne comprend pas trop, mais on a des mots qui vont apparaître. On a joie, tendresse, bonheur, enfance. Et juste ça, accompagné de la musique, parce qu'évidemment, la musique joue un rôle vraiment principal aussi dans la pièce. Tout ça fait qu'on facilite en fait la compréhension. Mais c'est vraiment au départ une volonté et un choix de la Fabrique Opéra.
Êtes-vous fier de votre métier ? Et comment vous sentez-vous à la fin de chaque représentation ?
Ah. Alors, fier de mon métier, bah oui, parce que oui, c'est un métier que j'ai choisi, c'est un métier qui est parti d'une passion, de plein de passions. J'ai fini tout à l'heure mon intervention auprès des étudiants en montrant une photo de maquette que les élèves du lycée Charles Péguy font chaque année pour qu'on travaille. On travaille toujours sur une maquette. Et je leur ai dit, mais en fait, moi, je crois que j'ai choisi ce métier pour ça, parce qu'à l'âge de 8-10 ans, bah, dans ma chambre, je m'amusais à faire des petites maquettes de je ne sais pas quoi, je ne sais plus, mais je faisais plein de petites maquettes. Donc, je pense qu'inconsciemment, j'ai choisi ce métier parce que je m'amuse à faire des maquettes. Voilà. Donc oui, je suis assez fier de ça. Et comment je me sens à la fin du spectacle, c'est toujours un moment de joie. C'est super parce que, et même pour les étudiants, moi j'adore quand ils arrivent au spectacle et leur première réaction, et ça coupe pas chaque année, c'est pareil, il y en a au moins deux ou trois qui me disent « Oh là là, mais on a l'impression de voir la maquette en grand ». Et c'est exactement ça en fait. Tout le travail qu'on a fait en petit, en miniature, en dessin, on le voit en vrai. Et ça, c'est hyper satisfaisant, même pour des étudiants, de se dire « Bah voilà, c'est un projet concret, c'est pas juste un projet d'études qui finit dans un cahier, et là, ça devient concret ». Et vu par, j'espère, 10 000 personnes.
En tout cas, merci d'avoir répondu.
J'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des touches qui te sont particulières et qu'on retrouve dans ta scénographie à chaque opéra ? Ou alors, t'essayes toi-même de te réinventer à chaque spectacle ?
Quand tu dis touche, est-ce que je me retrouve dans les scénographies ? Est-ce que je mets ma patte ?
Oui, voilà, exactement.
Bah, alors ça, c'est une question que je me pose souvent parce que en fait, on fait le travail à 16, on a 15 étudiants plus moi, donc on est 16 têtes pensantes sur la scénographie. Et en fait, j'ai l'impression, parce qu'eux, ils sont en apprentissage, mais en même temps, c'est leurs idées, c'est nos idées qu'on mélange. Donc, je suis hyper fier à chaque fois qu'on fait une scénographie parce que je me reconnais dedans. Je me dis jamais oh, bah tiens c'est des étudiants qu'on fait, je vais dire que c'est eux parce que moi ça me plaît pas du tout. Il y a mon nom sur l'affiche parce que je suis nommé scénographe, parce que j'encadre la scénographie, mais je dis à chaque fois c'est un travail vraiment de groupe, on est 16 scénographes. Donc je pense que je mets ma touche, évidemment je mets ma patte inconsciemment, mais en tout cas voilà, je me retrouve dans toutes les scénographies qu'on fait depuis presque 10 ans, ça c'est sûr.
Et moi, je me rappelle, tu nous avais dit, Olivier, que t'entendais les réactions parfois pendant le spectacle. Est-ce que les réactions, pour toi, sont toujours importantes, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, dans ce que tu fais et dans l'envie que t'as donné à la pièce, enfin, de ta personne, de tout ce que t'as donné ? Est-ce que l'avis général, tu dis, bah là, en fait, j'aurais mieux fait de faire comme ça ou quoi ? Ou alors.
Oui, bah ça arrive tout le temps. Évidemment, il y a des gens qui aiment certains trucs, d'autres qui n'aiment pas. C'est toujours constructif de savoir ce que les gens ont ressenti, parce que c'est vrai qu'on peut, même par la scénographie, par un élément de décor éclairé d'une certaine manière, on peut vouloir transmettre quelque chose, une émotion, tout ça, et que ça ne passe pas. Bon, bah, si ça marche pas, bah, c'est toujours plus intéressant de savoir pourquoi. Moi, je préfère qu'on me dise j'ai pas aimé parce que voilà, plutôt qu'on me dise j'ai aimé puis qu'en fait qu'on pense le contraire. Enfin, et puis vraiment, c'est comme tout, on fait un opéra. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Je crois qu'on a tous mis un petit peu d'une autre. Je pense que ce qui est récompensable chaque année, c'est vraiment le travail qu'on a fourni. Après, il y a eu des années où il y a eu des petits ratés, où moi, je suis pas content de tout ce qu'on a fait. Mais je crois que c'est normal. Et puis, dans tous les métiers, je pense que c'est pareil, que ce soit au cinéma, dans le théâtre. Ou voilà, mais oui, les avis des gens est toujours intéressant.
Ouais. J'avais posé la même question à Olivier, pour terminer. Est-ce que tu as un souvenir vraiment marquant avec ton aventure à la Fabrique Opéra ?
Oh là là.
Si tu n'en avais qu'un, ouais, je sais que c'est pas facile, mais si tu n'en avais qu'un à retenir.
Ah, c'est dur, j'aurais dû réfléchir avant.
Ou deux, voilà, deux, allez.
Un événement marquant.
Événement ou image ou souvenir ou...
Je crois déjà la première année, c'est de me dire, ah là là, mais on a réussi. Ça, c'était le premier truc. Et je crois que je me le dis encore de temps en temps sur certaines années. C'est parce... Moi, quand Clément m'a appelé il y a 10 ans pour faire... un décor zénith, j'ai dit « Ah ouais, génial !» Puis en fait, derrière, je me dis « Oh là là, mais est-ce que je vais savoir faire ça ? Je ne sais pas. » Et donc, quand on arrive au bout, c'est hyper satisfaisant. On se dit « Ouais, c'est cool, on a réussi, quoi. » Après, autre... je sais pas, non, il y en a plein. Je crois qu'il y a plein de petits trucs. C'est souvent des remarques d'étudiants aussi. Ouais, je l'ai encore cité tout à l'heure aussi aux étudiants de l'université. J'ai 3 menuisiers une année qui sont venus 3 fois, voire 3 fois le spectacle. Alors que ça arrive rarement quand même que les étudiants reviennent autant. Et en fait, mais ils ont adoré l'opéra. Ils m'ont dit « Non, mais on revient parce qu'on se met à des places différentes. Comme ça, on voit différemment notre travail. » Voilà, moi, je me dis bah, « Quand j'entends ça, c'est cool. On a réussi. »
Ça veut dire que le défi a été relevé.
Exactement, ouais.
Et l'envie de partager est vraiment réussie. Donc
complètement. Puis ça reste là, je trouve. C'est présent encore même après 10 ans.
Eh ben, merci Ludovic et merci Olivier d'être passé. Enfin, merci Ludovic d'être passé. Je rappelle les dates, c'est les 22, 23 et 24 mars. Pour les dernières places, comme tu nous disais Olivier, c'est sur lafabriqueopéra-valdeloire.com.
Absolument.
Eh ben, merci beaucoup d'être passé dans le magazine culturel. Nous, on continue en musique. On commence en musique avec Zip de Yak. Vous venez d'écouter H-Rim d'Anna Hollande. Tout de suite, on écoute du coup l'interview faite par Asma de Lina Soalem.
Bonjour Lina Soalem.
Bonjour.
Votre film Bye Bye Tibériade sort en salle ce 21 février. C'est un film qui retrace l'histoire de votre famille, des femmes de votre famille dans ces guerres du Moyen-Orient. Ces femmes, comme vous le dites dans cette phrase citée dans ce film, ont appris à tout quitter pour tout recommencer. Est-ce que vous aussi, vous avez voulu, avec ce film, recommencer quelque chose de cette histoire ?
Je pense qu'à travers le film, j'ai voulu plutôt faire perdurer une histoire qui risque de disparaître, puisque je voulais capturer les mémoires des femmes de ma famille avant qu'elles disparaissent, notamment les plus vieilles générations. Et aussi, je voulais pouvoir filmer des lieux qui avaient déjà disparu et qui se transforment et auxquels on a de moins en moins accès. Et surtout, je voulais immortaliser aussi l'histoire de ces femmes qui ne se sont jamais racontées. Et en plus, c'est une histoire qui n'est pas que une histoire de transmission de femme à femme ou de mère à fille, mais c'est aussi l'histoire de Palestiniens, d'un peuple qui a été privé de ses droits, dénié dans son identité et qui, justement, doit tout le temps se réinventer, recommencer. Et pour moi, c'est important de rendre la mémoire de ces femmes immortelles pour qu'elles puissent exister dans notre monde, comme c'est en plus une histoire qui n'est pas reconnue, qui n'est pas officielle.
Tout au long du film, on vous voit, vous et votre mère, Yam Abbas, qui est actrice et réalisatrice, entre des images anciennes des années 80-90, et cet échange avec elle, donc moderne, d'aujourd'hui, qui est très intimiste, très secret. Alors que votre mère, dans le film, vous dit cette phrase « N'ouvre pas les douleurs du passé ». En tout cas, c'est une phrase qui est mentionnée. Est-ce que vous avez eu un sentiment d'être en train de transgresser quelque chose en touchant à ce passé douloureux ?
Pour moi, il n'y avait pas vraiment de secret. Et je savais ce que c'était les douleurs du passé. C'est pas justement le fait que ma mère me le dise. Elle répète elle-même ce qu'on lui disait quand elle posait des questions déjà à sa mère et sa grand-mère. C'est une manière de se protéger aussi de la douleur, puisque c'est des femmes qui ont dû apprendre à se protéger de la tragédie de leur histoire collective. Donc l'histoire de déplacement, d'exil, de perte. Et en fait, je savais que ma mère allait me raconter, mais que ce n'était pas évident. Pour elle, c'était un devoir de transmission que de me le raconter. Mais en même temps, elle me partageait aussi le fait que ce n'était pas évident. Et je le savais. Avant de commencer le film, je savais que ce n'était pas une histoire facile. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été difficile pour moi de le faire. J'ai d'abord pensé que je n'allais pas réussir à le faire, puisque je savais que c'était une histoire très douloureuse, que même moi, j'avais pas forcément la force et le courage de faire face à cette histoire, mais en même temps j'avais cet objectif dont je parlais tout à l'heure, qui était de rendre ces mémoires existantes, immortelles, de réhumaniser toutes ces femmes, toutes ces histoires, de leur redonner le droit à la complexité, de leur permettre d'exister dans un monde où on leur donne pas la place. Et donc cet objectif m'a permis de faire face aux difficultés, et ma mère m'a jamais dit non, c'est-à-dire qu'elle me disait ça, mais elle voulait partager. C'était pas facile, mais à aucun moment elle m'a rejetée. Et puis encore une fois, il n'y avait pas de secret de famille. C'est pas un film sur les secrets de famille, c'est un film sur des histoires collectives et intimes, douloureuses, mais en même temps, des histoires d'héroïnes. Parce que pour moi, toutes les femmes de ma famille sont chacune héroïne de leur histoire. Et tout ce qu'elles ont traversé, c'est de l'ordre de l'épopée. Elles ont réussi à se reconstruire, à se réinventer quand elles ont tout perdu, quand on leur a tout enlevé et quand en plus on les déshumanise constamment. Et elles ont réussi non seulement à suivre certains de leurs rêves, mais aussi à élever des enfants, à leur transmettre des valeurs d'amour, de tolérance, de paix, à leur transmettre beaucoup d'humour aussi. Donc elles leur ont transmis une force, même alors qu'elles étaient dépourvues de beaucoup de choses.
Les hommes sont particulièrement absents de ce film. On les entrevoit, on entend parler d'eux, on les devine dans leur rôle, dans la place qu'ils ont tenue, particulièrement une place d'obstacle au recommencement de ces femmes, à leur éclosion, quelque part. Ils ont fait obstacle à l'éclosion des femmes. Est-ce que c'était voulu, cette absence ?
Pour moi, c'est pas qu'ils sont absents, c'est qu'ils sont en second plan, puisque pour moi, c'est les femmes qui ont permis de faire perdurer l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, les femmes de ma famille, bon, déjà, elles étaient plus importantes en nombre. Donc forcément, dans une famille de 8 sœurs et 2 frères, les frères étaient un peu plus timides et plus en background. Mon grand-père était beaucoup plus taiseux et beaucoup plus distant que ma grand-mère. Et malheureusement, mon arrière-grand-père est décédé. Donc en fait, c'est pas un choix. C'est-à-dire que naturellement, dans cette histoire, les femmes ont plus de place parce qu'elles sont plus nombreuses et parce qu'elles ont pris plus de place. Et c'est elles qui sont devenues les gardiennes du temple de la mémoire et qui ont pu témoigner et transmettre. En même temps, moi, j'ai aussi mon père qui est celui qui a filmé toutes les images d'archives, pardon, et qui m'a transmis ça et qui m'a permis d'exister dans cette histoire. Donc pour moi, sa place est très importante. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage que je filme, mais je le mentionne. Et sans lui, j'aurais peut-être pas pu faire ce film. Ensuite, le fait que les hommes soient obstacles, au contraire, j'ai l'impression, et c'est quelque chose que ma mère m'a dit un jour, que j'ai trouvé très fort, en visitant la tombe de mon grand-père. Un jour, elle m'a dit, ou elle a dit à mon grand-père devant moi, « Merci pour tout ce que j'ai dû combattre avec toi. Avec toi ou contre toi. » C'est-à-dire que le fait qu'elle ait dû parfois être en opposition avec lui, ça lui a permis de grandir et d'apprendre aussi. Donc elle le remercie aussi pour ça. Et finalement, dans cette histoire, son père a quand même fini par lui accorder aussi ce qu'elle demandait. Donc c'est pas une histoire où c'est des obstacles complets. Et je pense qu'il y a une réalité aussi pour les hommes dans cette histoire-là, qui en général étaient ceux qui étaient au front, entre guillemets. Les femmes sont parfois, dans des contextes de guerre, plus protégées que les hommes, puisqu'elles sont dans des espaces intimes. Et donc, ça permet d'être un peu protégées, puisqu'elles sont ensemble et elles se soutiennent, alors que parfois, les hommes sont un peu plus isolés à l'extérieur.
En 2012, votre mère, Yama Bass, qui est actrice et réalisatrice, réalise un film qui s'appelle « Héritage », qui raconte une histoire d'amour entre une jeune Palestinienne qui est jouée par Afsia Herzi, avec un Anglais. Donc, dans votre film, « Bye Bye Tiberiade », cette histoire revient souvent. Votre mère revient sur ce mariage, particulièrement sur le fait que son père ait désapprouvé son mariage. Il lui a interdit de célébrer ce mariage au village. Vous qui êtes la première de votre famille à être née ailleurs, loin de ces tiraillements, de cette tradition, quel regard est-ce que vous avez porté sur votre mère qui désobéit ?
Pour moi, j'ai pas vraiment de regard par rapport à ça, puisque à travers le film, il n'y a aucun jugement, c'est-à-dire que je raconte pas l'histoire de ces femmes en portant un point de vue ou en jugeant si c'était bien, pas bien, si c'était avant-gardiste ou conservateur. Pour moi, justement, ce que je voulais mettre en avant, c'est que les parcours de ces femmes, c'est un mélange de tout ça. Et ma mère était à la fois attachée à sa famille, attachée aux traditions, et à la fois était convaincue de devoir mener sa vie comme elle le voulait. Elle n'a jamais pensé les choses en termes de transgression, de rébellion. Pour elle, c'était naturel. Et donc, elle essayait de s'arranger avec la réalité pour pouvoir atteindre ses rêves, tout en gardant des liens avec sa famille et en respectant la tradition et les parents. Donc, c'est ça que moi, je trouve intéressant, c'est que souvent dans le cinéma, les femmes arabes sont toujours représentées de manière un peu binaire, c'est-à-dire c'est soit la très conservatrice qui va reproduire les traditions et être très dure, soit la très rebelle qui va épouser les us et coutumes occidentales et rejeter tout ce qu'elle avait connu, ou sa famille, ou sa culture d'origine, disons. Alors que moi, les femmes que je connais de cette région-là, en tout cas les femmes de ma famille, et je sais qu'elles ne sont pas les seules, c'est un mélange de tout ça. Et c'est cette complexité-là que je voulais leur rendre pour qu'elles puissent exister pleinement et ne pas être représentées dans par des représentations très fermées, très binaires, des étiquettes qui ne leur correspondent pas.
Est-ce que l'élan féministe social des dernières années vous a donné un élan pour faire ce film ou est-ce que finalement le féminisme, sans le nommer comme tel, dans ces endroits du monde existe depuis toujours et que vous avez toujours su ce que c'était que le féminisme, sans le nommer.
Je sais pas si on peut parler du même féminisme partout. En tout cas, c'est sûr que les femmes ont toujours réussi à influencer leur entourage. Et c'est sûr que moi, c'est grâce aux femmes de ma famille que je suis aussi ce que je suis. Et en même temps, c'est aussi grâce à tous les combats féministes, anciens ou contemporains que je peux aujourd'hui m'exprimer et faire ce que je peux. Donc j'ai la chance d'avoir hérité de femmes inspirantes et aussi d'être dans une époque où on peut s'exprimer et exister en tant que femme. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais moi je suis privilégiée par rapport à ça.
C'est un film donc poignant, douloureux, très intimiste, très silencieux aussi. Il y a beaucoup de silence. C'est un film très esthétique, très pictural. Les paysages, notamment le lac, comme point de central, de noyau. Et à l'époque, votre mère, Yamabas, sur le film Héritage, avait mentionné que le titre Héritage résonnait comme un attachement aux montagnes. Est-ce que vous avez retrouvé ça dans ce film, cet attachement au territoire, au symbole du territoire qui est sans cesse profané, capturé, brisé?
Bah oui, je pense que le territoire nous hante, puisque le territoire a été perdu, se perd et transformé, à la fois du fait de l'histoire, aussi du fait de la modernité. Donc il y a beaucoup de changements qu'on a du mal à se retrouver dans les territoires. Et je pense que justement, la présence de ces montagnes, c'était la chose rassurante qui nous permettait de nous accrocher à un endroit qu'on valorise, un endroit qu'on considère terre d'origine, terre-mère. Et en fait, quand le territoire se transforme, on a l'impression de perdre un ancrage. Et en même temps, il y a toujours ces montagnes qui sont présentes, ce lac qui est présent. Et finalement, c'est le seul point d'ancrage qu'on a, puisque tout autour du lac, les choses changent, les maisons n'existent plus, c'est moderne, c'est modernisé. Donc forcément, ce qu'on reconnaît finalement, c'est les montagnes et l'eau, c'est les éléments un peu de nature qui nous raccrochent à un endroit.
Je voudrais aussi ajouter que c'est un film où on rit, avec beaucoup de moments très tendres, de grande sororité. C'est un film sur un sujet grave, douloureux, poignant, sérieux, mais c'est un film où il y a aussi beaucoup d'humour. Et donc Tibériade, c'est l'endroit où votre mère vous a emmené enfant. Le film s'appelle Bye Bye Tibériade. À quoi est-ce que vous avez voulu dire bye bye? Est-ce que ça résonne avec cette phrase si belle et douloureuse que votre mère vous dit sur son départ à elle, qui vous dit « quand on s'envole, ça fait mal ». Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans le bye bye?
Alors bye bye, pour moi au départ, c'était pas du tout conscientisé, c'est-à-dire que j'ai pensé à ça. Et j'ai compris après pourquoi j'avais pensé à ça, quand il a fallu expliquer. En fait, à chaque fois qu'on retourne au lac, on y va avec les souvenirs qu'on a du lieu. Et à chaque fois, on retrouve un endroit qui a été transformé. À chaque fois, on crée de nouveaux souvenirs pour pouvoir se raccrocher à l'endroit. Quand on quitte, on ne sait pas comment on va retrouver l'endroit. On sait que c'est un endroit qui a déjà été perdu, dans lequel on a déjà perdu une partie de notre histoire. C'est un endroit dans lequel notre histoire n'est pas ancrée, puisque à Tibériade, la mémoire de ma famille n'est pas présente. Ils ne sont pas reconnus. Et donc, pour moi, c'est à chaque fois un déchirement que d'y retourner, de devoir créer de nouveaux souvenirs, se raccrocher à quelque chose, et en même temps, à chaque fois qu'on part, ne pas savoir comment on va retrouver le lieu, est-ce qu'on va retrouver le lieu, est-ce qu'on va pouvoir continuer à y appartenir, à trouver un ancrage avec ce lieu. Donc, c'est pas un au revoir, mais c'est un départ et un retour continuel, et je pense que c'est aussi peut-être une manière de faire écho à ce que veut dire l'exil, c'est-à-dire qu'on parte par choix ou par force, il y a quelque chose qui se casse et qu'on ne retrouvera jamais, mais en même temps on peut recréer de nouvelles choses, c'est-à-dire que l'exil c'est à la fois tragique, et ça c'est Edouard Said qui disait ça, mais c'est aussi une manière de se réinventer dans la marge. Donc c'était un peu ça le bye-bye, c'est l'idée d'une histoire en boucle. Et on voit bien aujourd'hui à quel point cette idée de boucle est vraiment contemporaine, puisqu'on voit à quel point la disparition est continuelle et elle continue aujourd'hui.
Donc Bye Bye Tibériade, sorti le 21 février de Lina Soualem, un film très poignant, douloureux, important. Merci Lina Soualem.
Merci beaucoup.
Marion.
Oui.
Et bah, c'était le Mag Culturel.
Eh bien, merci.
Radio Campus, merci à toi d'être passé pour l'interview d'Olivier Richard et de Ludovic Meunier pour nous parler de Nabucco. C'était très cool. Non, pas d'au revoir.
Pas d'au revoir. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Mais non.
Pour le reste de votre soirée, à 19h, Live Camp, 20h, Dal Daryl, Kicking Fuckster, et 22h minuit pour le reste de votre soirée, Nation Groove. Bonne soirée à tous. Je vous laisse avec Hang de Gaffer.
Yarımı kaybetmişim şu cihan. des œufs, des